Son nom n'est ni plus ni moins que la traduction littérale du classique trombinoscope. Et pour cause, hein, à l'origine, Facebook regroupait les photos des étudiants de l'université d'Harvard aux États-Unis. Aujourd'hui, le réseau social compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Il existe en 96 langues et il fête ses 15 ans en ce début février. En 15 ans, le bébé de Mark Zuckerberg a évidemment bien grandi, au point de bousculer le paysage de la diffusion d'informations et de devenir aussi le porte-voix de citoyens militants, au premier rang desquels, bien sûr, les Gilets jaunes en France. Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité et vous intervenez également à l'École nationale supérieure de la police. Comment Facebook est-il passé du profil personnel avec la photo du sympa de Noël, qui existe toujours, hein, cela dit, au rôle de meneur d'hommes en quelque sorte, que ce soit pour les Gilets jaunes ou pour les militants de la cause climatique, si on ne prend que des exemples français?
En fait, Facebook est devenu un écosystème, c'est-à-dire qu'en partant de ce qui était un site d'étudiants, Facebook a été capable d'une part de se généraliser, mais de créer un écosystème, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse naviguer dans l'univers Facebook aussi bien pour sa vie personnelle que les entreprises pour faire du commerce et faire de la promotion marchande.
Un écosystème addictif ?
Alors, il y a ce sentiment de manque, c'est-à-dire le fait de se dire que je rate peut-être quelque chose, je ne suis pas partie prenante d'un événement. Alors, ça, le problème, c'est que c'est bien chacun qui s'est construit cette petite addiction. Il y a ce besoin d'être partie prenante de la communauté, partie prenante de ce qui fait l'actualité de ses amis, de ses connaissances, surtout que le téléphone portable devient le compagnon naturel et on n'a plus besoin de la connexion d'un ordinateur, comme ça pouvait être le cas il y a 15 ans au début de l'aventure Facebook.
Au point de devenir le porte-voix de citoyens militants aujourd'hui.
En tout cas, c'est un vecteur qu'ils maîtrisent et qu'ils consultent, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise, contrairement par exemple à Twitter qui est plutôt l'apanage d'une relative élite intellectuelle, politique, de leaders d'opinion. Facebook est justement présent dans les familles et c'est un usage qui est très populaire.
Mais le nouvel algorithme aussi, mis en place ces derniers mois, avait accentué la constitution de groupes.
Vous avez raison, c'est-à-dire que Facebook justement mise sur les communautés qui se ressemblent, s'assemblent, les gens que vous connaissez vont venir alimenter votre fil d'actualité. En fait, de plus en plus, Facebook va avoir les caractéristiques d'un État. Les spécialistes en droit public évoquent pour les trois composantes nécessaires à la constitution d'un État, il faut un système juridique qui s'applique à une population rassemblée sur un territoire. Vous voyez que les conditions générales d'utilisation d'une multinationale comme Facebook s'imposent, avec d'ailleurs la désignation éventuellement même d'un tribunal californien si vous aviez un contentieux, la version en anglais qui s'impose par rapport aux traductions, une population, 2 milliards en tout cas, plusieurs centaines de millions de personnes, et puis un territoire qui est effectivement les serveurs, avec la problématique de la localisation des données, de l'exploitation des données. C'est un acteur qui désormais parle avec les États de manière à pouvoir imposer éventuellement soit son approche fiscale, mais aussi quant à la composition de l'information qui va circuler sur ses pages. C'est un acteur qui, au bout de 15 ans, peut devenir un interlocuteur de poids face à des États pourtant installés de longue date et pour certains multicentenaires.
Alors Facebook aujourd'hui est le troisième site web le plus visité au monde après Google et YouTube. Il est passé maître dans l'art de collecter les données personnelles des utilisateurs, ce qui permet de les cibler au profit des publicitaires. Aujourd'hui, Google et Facebook captent près de 60% des recettes publicitaires mondiales. Les publicitaires ont donc tout intérêt à investir de ce côté-là, au détriment parfois de sites d'information en ligne, comme BuzzFeed ou HuffPost par exemple, des sites gratuits dont la principale source de financement était la publicité. Ces sites aujourd'hui sont en péril. Il y a eu plus de 200 emplois supprimés encore la semaine dernière.
Alors, le problème, c'est le temps disponible, c'est-à-dire quelle est l'attention que les citoyens, lecteurs, téléspectateurs ou auditeurs vont consacrer à l'information. Vous êtes en concurrence dans le temps disponible consacré à ce média, et donc effectivement, c'est de facto un concurrent, puisque le temps passé à consulter, bah, il faut bien qu'un certain nombre d'éléments de la vie quotidienne, la vie en famille, le travail, le sommeil, peuvent être négociés vis-à-vis de cette consommation numérique, mais va se faire au détriment. Deuxièmement, c'est la gratuité. C'est vrai que le modèle économique de Facebook et des principales plateformes est fondé sur l'audience. Je réunis beaucoup de monde et je fais en sorte de commercialiser aux publicitaires.
Oui, mais il y a des sites d'information gratuits aussi.
Bien sûr. La seule chose, c'est qu'il faut que les gens viennent à vous. C'est un peu comme si vous aviez une boutique qui était très bien garnie avec un vendeur, une vendeuse sympathique et très compétente, mais qui se trouve dans une rue qui est peu ou pas fréquentée. La force des plateformes comme Facebook, c'est de dire les gens fréquentent les artères de mon organisation. Donc si vous venez chez moi, moyennant un prélèvement sur votre activité, vous serez visible. Et donc, effectivement, ils ont réussi à faire en sorte d'avoir de l'audience, c'est-à-dire de drainer des visiteurs, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité. Si les gens ne viennent pas le visiter, s'il n'est pas suffisamment bien indexé, bah, en fait, votre site n'est pas visible. Là aussi, le consommateur, l'internaute a une responsabilité dans sa pratique, puisque justement Facebook surfe sur une relative paresse. C'est pour ça d'ailleurs que Facebook a deux enjeux maintenant à gérer, qui va être également d'entretenir la confiance, de manière à ce que justement les internautes ne délaissent pas ces pages et donc fassent ainsi chuter l'attractivité pour les annonceurs qui y voient un endroit extrêmement bien fréquenté en termes de nombre de gens et en temps passé sur cette plateforme.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité, auteur notamment d'un Que sais-je sur la cybersécurité.